Reda Kadeb, bonjour. Donc, avant toute chose, je dois vous souhaiter bon anniversaire, puisque demain, vous aurez 45 ans. Félicitations. Le film pour lequel on se voit, c'est Les Promesses, le film de Thomas Kreutzoff. Deuxième réalisation, film qui sort le 26 janvier. Alors, dans ce film, vous êtes Yazid, directeur de cabinet, bras droit d'une maire d'une ville en Seine-Saint-Denis. C'est Clémence, interprétée par Isabelle Huppert. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes deux idéalistes ?
Oui, d'une certaine manière. Oui, oui, on peut le dire, mais deux idéalistes qui ne sont pas naïfs.
Au fil de quoi ? De votre expérience aussi ? Il faut dire que ça fait quand même plusieurs années que vous avez votre mandat, là, au niveau de la mairie.
Alors, dans le film, moi, mon personnage est directeur de cabinet, donc il n'est pas élu. Il travaille au service de cette maire, qui est effectivement maire de cette ville de banlieue depuis de nombreuses années. Ouais. Oui, oui, c'est vrai.
Est-ce qu'on rentre en politique, c'est un peu comme si on rentrait en religion, non ?
Je ne sais pas, parce que je connais peu, enfin je connais même pour ainsi dire pas du tout le monde du religieux, de la profession de foi qui devient finalement comme une forme de métier aussi et tout ça. Mais je crois que quand même dans le religieux, il y a cette notion de dogme et de précepte qu'il ne faut en aucun cas trahir, que justement il faut toujours qu'il faut rechercher une forme de pureté jusque dans chaque moment de son quotidien, avec un certain nombre d'interdits, un certain nombre de règles. Le politique, quand bien même il peut être un idéaliste et quand bien même il peut travailler pour des idées justes et nobles, il est quand même placé sur un échiquier dans lequel il devra forcément
pactiser,
jouer des coups qu'il n'avait pas peut-être pensé jouer avant, ouais. Et à certains moments se salir les mains aussi, ouais.
Ouais. Mais il y a quand même parfois la fin qui justifie le moyen aussi, non ?
Ben, en tout cas, c'est comme ça que se justifient les gens dans leur intimité, les personnages dont on parle, de dire qu'effectivement, pour reprendre cette phrase du film qui dit « une promesse tenue n'est pas un mensonge », une promesse non tenue n'est pas un mensonge, de dire qu'effectivement, si un petit mensonge permet d'obtenir quelque chose qui va avoir un véritable impact sur la vie de milliers de personnes et avoir un profond changement dans le sens positif, alors ça vaut le coup. Et j'ai l'impression que le calcul, il est un peu permanent dans ces fonctions-là, chez ces personnages-là, chez ces personnes-là, de la notion des priorités de choix et de se dire qu'effectivement, l'important est de pouvoir parvenir à ses fins, même si le chemin n'est pas toujours si pur que ça, la fin va justifier les moyens, comme vous le disiez. Ouais. C'est le cas aussi d'Obama dans l'histoire que mon personnage raconte, de dire l'infidélité ou la forme de trahison qu'il a pu faire à cette Alice Palmer, si ça n'avait pas eu lieu, il n'aurait pas été président derrière, il n'aurait pas eu l'impact qu'il a pu avoir sur le monde, même si après on s'est rendu compte qu'il avait ses limites aussi.
Est-ce que il y a une place pour une vie privée dans
un iPad de Jean ?
Est-ce qu'il y a de la place pour une vie privée dans ce type d'engagement ?
Je crois que c'est très compliqué. Il y a des gens qui arrivent à articuler ça, mais c'est quand même tellement demandeur, tellement envahissant aussi, tellement prenant en termes d'heures, de temps, etc. que c'est difficile d'en avoir une, mais certaines personnes y arrivent, donc j'imagine que c'est possible.
Est-ce qu'il y aurait pourrait y avoir une histoire d'amour avec Clémence ?
Entre ces deux personnages, non, je crois pas. Je crois que on est plus dans un rapport un peu mère-fils pour le coup. Après, dans la vie, tout est possible, mais moi, j'ai pas vu la possibilité de ça, ou même l'ouverture imaginaire possible, une chose comme celle-là.
Est-ce qu'il y a des moments d'impuissance quand même, malgré tout, dans votre personnage? Le fait d'avoir cette possibilité de partir à Paris, comme pourrait éventuellement Isabelle d'avoir un poste de ministre, c'est la carotte au bout du bâton, ou c'est illusoire?
Bah, en tout cas, oui, c'est pas la carotte, mais on lui fait miroiter quelque chose qui va agir en elle quand même sur ses propres ambitions, sur la volonté de mettre une forme de point d'orgue en fin de parcours et d'accéder à quelque chose. On lui plante la graine d'une ambition qu'elle n'avait pas elle-même, quoi. Ça arrive de l'extérieur et ça l'ébranle, ça la chamboule aussi. Mais elle y est très sensible à cette proposition qu'on peut lui faire.
C'est un film politique et finalement qui est quand même assez grave. Et finalement, Thomas a quand même su présenter ça comme une sorte de thriller pour essayer de faire admettre au grand public cette complexité du monde politique quand même. Je crois que c'est un des atouts du film quand même.
Oui, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a séduit dès la lecture. J'avais vu aussi son film précédent, La mécanique de Londres, qui était aussi...
Sur le complot politique, oui. Ouais,
qui jouait sur les notes du thriller aussi. Et en lisant le scénario des promesses, j'avais en tête la forme, le style que j'avais pu apprécier dans La mécanique de Londres. Et Thomas, je pense... ne met pas sur une échelle le propos qu'il voudrait faire passer et la forme. Il essaye, comme pour moi les bons réalisateurs, de trouver un équilibre entre le fond et la forme et effectivement d'en faire un spectacle, puisque c'est quand même pour ça qu'on va dans une salle de cinéma.
C'est vrai que ces rouages politiques, avec tout ce qu'on voit pour l'instant, les élections présidentielles, Brexit, ce qui se passe en Amérique du Sud, le citoyen lambda est quand même assez perturbé. Et on essaie de trouver des signes de compréhension, c'est qu'ils ne sont pas évidents. Et je crois qu'un film comme ça, par contre, est bien construit pour pouvoir donner certaines clés au problème, non ? Oui, c'était déjà dans le scénario, vous l'aviez perçu comme ça ?
Dans cette période-là de début de campagne électorale présidentielle en France,
batterie à 100%.
À poser sur la table du débat ces questions-là aussi, qui concernent beaucoup de gens, les questions du logement et de l'habitat insalubre, et de parler aussi des habitants des banlieues sur un autre mode que celui de l'insécurité, de la délinquance, de l'islamisme, ces thèmes qui, au bout d'un moment, finissent par devenir un peu comme des écrans de fumée aussi, et qui cachent totalement la réalité aussi de ce qu'on peut observer quand on va tourner dans un quartier très difficile comme celui où on a pu tourner et où on observe le soin qui est donné, la dignité de la plupart des habitants à vivre et à éduquer leurs enfants dans des conditions certes très difficiles, mais justement avec beaucoup de courage et beaucoup de soins. Moi, j'ai tourné par exemple la scène où je vais récupérer les chèques chez les habitants. J'allais vraiment d'un appartement à l'autre, très souvent en jouant avec les véritables personnes qui habitent dans ces lieux-là. Et à chaque fois, j'étais frappé entre la saleté et l'abandon des parties communes et le soin et la propreté qui était chez les gens. Voilà, on arrive dans un petit appartement extrêmement bien tenu où il y a un bon plat qui est en train de mijoter et un enfant qui est en train de faire ses devoirs sur un petit coin de table. Enfin voilà, moi ça me touche beaucoup que ce regard-là puisse être porté sur ces gens-là.
Vous avez fait beaucoup de théâtre, vous êtes d'une famille de gens de théâtre. Est-ce que vous croyez que ce mode d'expression est aussi puissant pour faire passer des messages que le cinéma ?
Oui, bien sûr, il l'a été, il l'est encore. En termes populaires, on n'est plus à la Grèce antique, quoi. Donc voilà, l'impact véritablement populaire du théâtre, malheureusement, on peut que constater que c'est quand même une forme d'élite intellectuelle et culturelle qui a cette pratique du théâtre. Mais ça n'enlève pas la puissance de cet art pour rencontrer les autres, pour se plonger dans d'autres réalités, finalement pour moi c'est toujours cette chose-là, c'est se mettre à la place de l'autre, quoi. C'est se mettre à la place de situations, de réalités qu'on ne connaît pas et au théâtre c'est très très fort, c'est très très fort le partage entre les acteurs sur scène et le public, ça n'arrive pas toujours, loin de là, mais quand réellement la rencontre se fait et que tout le monde est ensemble suspendu au souffle de l'acteur, c'est quelque chose de magnifique.
Pour revenir au cinéma, en 2015, vous aviez réalisé un court-métrage avec Philippe Rebaud, Pichoun. Et il semblerait que maintenant vous vous lanciez dans le long métrage, donc le rire médecin, ça en est où ?
Ça en est à une version du scénario. Là, on est encore en train de travailler sur le scénario, mais de version en version, on se rapproche du film que je veux tourner.
C'est vrai que vous avez été clown. Est-ce que c'est ça qui vous a donné l'envie ou au contraire, c'est le fait d'être parrain de cette association ?
Alors, je pense que oui, il doit y avoir quelque chose avec les clowns que je ne saurais pas trop nommer, quoi, que je ne pourrais pas trop expliquer. Mais en revanche, ce projet-là, il est né en lisant le journal du docteur Giraffe qui a été écrit par Caroline Seidmans, qui a monté l'association Le Rire Médecin, que je ne connaissais pas du tout en lisant le livre. C'est un ami producteur, qui est d'ailleurs le producteur de mon film, du coup, qui m'a envoyé ce livre. Et en le lisant, à chaque page, j'avais une foule d'images, de sensations, quelque chose d'assez évident, où je me suis dit, il faut que je fasse un film là-dedans, quoi. Et puis ensuite, j'ai rencontré Caroline Seidmans, elle m'a ouvert les portes de son association, j'ai pu m'immerger à l'hôpital avec les clowns dans différents services pédiatriques à Paris et aux alentours de Paris pendant pas mal de temps. Et c'est là que j'ai commencé à écrire cette histoire. Et puis c'est quelques mois plus tard que Caroline m'a demandé de rejoindre, si je voulais bien rejoindre les parrains du Rire Médecin. Et ça m'a semblé évident de l'accepter, bien sûr.
Le passage à la mise en scène, ça ne vous fait pas peur Surtout avec un sujet quand même porteur comme celui-là, quoi. Hein ?
Oui, bah, si, ça fait peur. C'est sûr que... on est plus exposé à la critique, on doit être plus responsable, on doit être plus répondre à toutes les questions. Acteur, c'est différent, c'est fait aussi de beaucoup de moments de vide, de moments de silence, de moments où on vous demande rien en fait, si ce n'est à l'instant T de être au mieux de ce que vous pouvez donner à la scène et au rôle. Réalisateur, c'est autre chose. Et moi, j'ai fait juste ce cours, mais j'avais besoin pour partir sur un long métrage d'avoir une histoire et un sujet qui me tenait vraiment beaucoup beaucoup à cœur, parce que je sais aussi trop bien le temps que c'est, le travail que ça demande, les années passées à écrire, à préparer, à réaliser, à monter, enfin tout le cheminement d'un film. Et je n'ai surtout pas de frustration en tant qu'acteur, comme si je m'exprimais pas assez ou que j'avais besoin de m'exprimer plus. C'est ça. Moi, j'adore être acteur. Mais cette histoire, je veux la raconter.
Alors, donc, comme on a dit, demain...
Pardon, excusez-moi, on
45
arrive à la fin, de, fin ouais. de l'interview.
Donc, demain, 45 ans, c'est la dernière question. Est-ce que vous vous souvenez encore de l'époque où vous étiez ouvreur, projectionniste dans le cinéma à Ivry-sur-Seine? Et comment jugez-vous cette, cette trajectoire?
Je m'en souviens très bien et je pense qu'on est en train d'essayer d'organiser une projection du film au Luxy à Ivry-sur-Seine. J'aime bien retourner. La dernière fois, c'était pour Django, dans ce cinéma où j'ai été ouvreur, caissier et un peu projectionniste, pour maintenant présenter mes films et faire des débats avec les gens. Pour moi, je suis dans une continuité. C'est pas une success story. J'avais envie de faire du cinéma. J'ai commencé par... vendre des places de cinéma, déchirer des tickets, ensuite toucher de la pellicule. C'était encore, c'était les derniers temps où on travaillait en 35 mm, où je montais le film sur la machine. J'ai appris à faire ça. J'ai vécu un peu cette chose, un peu cinéma paradiso, quoi, plus dans une petite salle d'une ville de banlieue avec un public qui venait à la fin, on discutait des films. Ça m'a, je pense, un peu éduqué le regard aussi, parce que quand je voyais des films, pour les contrôler, contrôler que la projection se passait bien, très souvent je voyais un film 15 fois dans la semaine, quoi, enfin le même film. Non, à l'époque, je rêvais de pouvoir moi aussi m'exprimer sur cet écran, sans savoir si ça arriverait un jour. Ben, en ce moment, ça arrive.
C'est le cas. Merci en tout cas. Et bonne continuation. On rappelle Merci. Donc les promesses qui sortent le 26 janvier. Merci Reda.
Merci à vous. Ça va sortir en Belgique aussi?
Oui, ouais, tout à fait.
À la même date?
Oui.
Ah super, très bien.
Merci.
Okay. Bon bah bonjour au public belge Alain.
Merci.
À la prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Merci Jean.